Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois un jeune pharaon. Beau comme un dieu égyptien, mais ultra connecté. Régnant sur la maison de couture Balmain, grâce à une success story 2.0 qui a fait de lui une star parmi les stars, habillant Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, Jennifer Lopez. Son destin flamboyant et sa réussite aussi insolente que justifiée, il a multiplié par 6 le chiffre d'affaires de la maison Balmain depuis qu'il en crée les collections, n'ont pas apaisé le questionnement douloureux qui le tenaille depuis l'enfance. Olivier Rousteing est né sous X, bébé à la peau ambrée, adopté par une famille blanche et a toujours tout ignoré de ses parents biologiques. « Plus je sais où je vais, plus j'ai besoin de comprendre d'où je viens », dit-il au début du film puissant, instructif et bouleversant qu'Anissa Bonnefoy a réalisé autour de sa quête d'identité, jusque dans ses démarches auprès de l'administration française. Olivier Rousteing habite donc à la fois deux planètes. Celle de la mode, où le jeune prince est adulé par les happy few du monde entier et suivi par 5 700 000 followers. Et puis sa réalité emplie d'une extrême solitude, avec en écho une question sans réponse. Qui sont et où sont mes parents biologiques ? Le film Wonder Boy, Olivier Rousteing né sous X, est en salle.
Europe 1.
Et Olivier Rousteing est mon invité, bonjour.
Bonjour Isabelle, vous allez bien ?
Mais je vais très bien, je suis très heureuse de vous recevoir parce que réellement j'ai 1000 questions à vous poser. Et d'abord, Olivier Rousteing, Anissa Bonnefond, la réalisatrice donc de Wonder Boy, dit « Quand on cherche ses parents biologiques, en réalité, ce n'est pas un parent que l'on cherche, c'est une acceptation de soi ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, absolument. Complètement d'accord. C'est une quête qui vous fait comprendre d'où vous venez et qui vous fait mieux comprendre qui vous êtes, tout simplement.
Donc en fait, c'est plus pour vous trouver vous-même.
C'est comprendre l'être que je suis aujourd'hui en allant chercher mes racines, en fait. Et aussi rencontrer, si je le peux, ou me faire connaître, en fait, de mes parents biologiques.
Est-ce qu'on se dit, de façon un petit peu victimaire, Olivier Rousteing, est-ce qu'on se dit que si on a été abandonné, c'est qu'on n'était peut-être pas digne d'être aimé ?
On se le dit, évidemment, on se le dit. C'est une vraie question qu'on se pose tout au long de sa vie, en fait, jusqu'à temps qu'on en ait peut-être les réponses, et d'où ma quête.
Alors, par le travail qui est votre carapace, vous êtes construit une réalité qui est un rêve. Mais on peut en fait l'appliquer à beaucoup de choses dans votre univers, ce mot. Carapace. Mmh. Carapace, par exemple, on peut l'appliquer à vos robes, qui sont des armures de strass pour des Amazones ultra sexy, des power girls, protégées par ces carapaces précieuses qui irradient le glamour. Et puis votre carapace, c'est aussi le masque de cette réussite qui cache une solitude réelle hein, et tout à fait inattendue quand on découvre le film. Jusqu'à présent, vous avez avancé masqué, c'est ça ? Vous avez en fait inventé un personnage ?
Je pense pas avoir inventé un persona, mais je pense avoir mis le masque du personnage que je voudrais être. Donc je l'ai pas inventé de toute pièce. Disons que la vie aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux masques qu'on peut créer, c'est des masques d'une vie qu'on prétend avoir, ou qu'on prétend vouloir être. C'est deux choses différentes. Je pense que je suis le masque que je veux être, mais que je ne suis pas capable de l'être encore.
Bon, partir en quête de ses origines et rechercher sa mère biologique. Évidemment. Mais alors pourquoi on est encerné de caméra, Olivier Rousteing ?
C'était un choix assez difficile, mais un choix important. J'ai commencé ma première recherche à 16 ans, à l'âge légal où je pouvais ouvrir mon dossier. Sauf que le premier step, ça a été de me dire en fait que j'avais un nom usuel et un prénom usuel. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que quand on est abandonné, l'État nous donne un prénom et un nom de famille. Et donc je ne m'appelais pas Olivier Rousteing. Ils m'ont donné mon prénom et mon nom.
C'est l'État, ça n'est pas la maman biologique qui abandonne. Qui, comme une espèce de cadeau ultime, choisirait un prénom. Non, c'est l'État.
Non, c'est l'État qui vous donne, donc c'est par le biais de personnes de l'orphelinat, en fait, qui vous donne un prénom et un nom, parce que quand on est pupille, en fait, on doit avoir un prénom et un nom quand on est sur le sol. Et donc, en fait, on m'a donné mon prénom et mon nom à l'âge de 16 ans, qui n'était pas Olivier Rousteing. Et donc, j'ai complètement rebroussé chemin. J'avais peur. Et donc, finalement, pourquoi les caméras aujourd'hui ? Parce que c'était la façon de ne pas rebrousser chemin, de savoir que je devais finir cette quête et être, entre guillemets, dans l'obligation de, pour moi-même et pour le documentaire de finir cette recherche. Donc les caméras, finalement, m'ont poussé à ne pas rebrousser chemin,
vous
aller jusqu'au bout.
Vous n'y alliez pas seul,
ouais,
en fait.
Ouais.
Voilà.
Absolument.
Alors, ce qui est très étonnant dans l'aventure de ce film Wonder Boy, c'est que la réalisatrice Anissa Bonnefond a une histoire personnelle assez similaire à la vôtre par certains aspects, puisqu'elle a été abandonnée par son père quand elle était bébé. Pendant le tournage, J'imagine qu'elle a dû vivre à travers vous beaucoup de ces interrogations.
Bien sûr, oui, ça a été un... Il y a eu des moments où quand on sortait hors caméra, en fait, elle vivait en fait ce que je vivais. Elle avait les larmes quand je les avais parce qu'elle comprenait, elle les ressentait. Et je pense que la force de ce film, finalement, c'est que ça parle à beaucoup de monde. L'abandon, finalement, c'est un mot qui touche beaucoup de gens. Les secrets de famille, c'est un mot qui touche beaucoup de gens. Et bien depuis sûr. Que je fais beaucoup d'interviews et que je parle de Wonder Boy, je me rends compte que beaucoup de gens se sentent très proches de cette aventure pour maintes et maintes raisons.
Vous êtes rencontré comment avec Anissa Bonnefond?
On s'est rencontré, j'étais à la recherche d'un appartement dans Paris et j'ai rencontré ses parents. Le jour d'une visite, j'ai rencontré ces deux personnes formidables qui étaient les parents d'Anissa, qui m'ont dit « Notre fille adore ton travail, est une jeune réalisatrice qui est fan de ton parcours et à la fois de ton travail et j'aimerais bien que tu l'aies rencontrée. » À la deuxième visite, finalement, de mon appartement, j'ai rencontré Anissa. On a bu un café au lait ensemble et à partir de là, l'histoire est née. De voilà. Manière très simple.
Le destin, c'est ouais. Être parfois un étonnant scénariste. Alors, pendant combien de temps les caméras d'Anissa Bonnefond ont-elles suivi autour du monde, comme dans les bureaux de l'administration française? Parce que on vous voit dans les grandes capitales planétaires, et puis on vous voit d'ailleurs dans les ateliers oui. De Balmain, avec toutes les petites mains, avec toutes les équipes de Balmain. Ça a duré combien de temps?
Presque 2 ans.
On arrive à les oublier, les caméras?
Oui,
au bout
absolument.
De combien de temps on les oublie?
Au bout d'un mois.
Au bout d'un mois, vraiment.
Ouais. Et parfois même, c'est même plus qu'on les oublie, c'est qu'elles nous manquent quand elles ne sont pas là.
Ah. Bon, ce film Wonder Boy est en salle déjà depuis quelques jours. Vous en avez accepté l'idée dans l'espoir, Olivier Rousteing, que en fait, votre mère le voit et décide alors de se manifester, c'est ça?
Oui, absolument. Je pense que le véritable message de ce film, c'est le sortir au grand jour pour qu'elle puisse le voir dans les salles, en fait, tout simplement.
Est-ce que vos parents adoptifs ont vu Wonder Boy? Et si oui, comment ont-ils réagi aux scènes réellement bouleversantes qu'on va évoquer tout à l'heure et qui ont été filmées donc dans les bureaux du CNAOP, c'est-à-dire le Conseil National pour l'accès aux origines personnelles, là où jamais des caméras n'étaient entrées. Et elles ont pu le faire grâce à vous. Vos parents adoptifs ont vu ce film?
Pas encore.
C'est vrai?
Non.
Pourquoi hésitent-ils?
D'abord, c'est une expérience assez dure pour des parents adoptifs de voir un film qui part de sa biologie, c'est-à-dire qu'il faut savoir que des parents adoptifs ont encore cette, je dirais pas une jalousie, mais cette difficulté à accepter qu'il y a eu d'autres parents avant eux. Alors ils vont le voir au cinéma, mais je sais pas encore. Je sais pas encore quand c'est qu'ils iront le voir. On en parle beaucoup, on se parle beaucoup, mais c'est une expérience extrêmement
mais
difficile.
Mais pas dans l'intimité en fait de la famille. Ils seront immergés dans la foule, dans un public, ouais. D'une manière anonyme. Oui. Ils préfèrent ça.
Oui, absolument. Ma mère me l'a dit encore il y a quelques jours, m'a dit « je préfère être immergée dans cette foule et comprendre en fait mon fils au travers de ce que je vois, de travers des regards des autres, de comprendre en fait dans cette salle ce film ». Elle voulait le voir comme une expérience cinéma, bizarrement, c'est très étrange.
Il y en a tant de choses très étranges dans votre parcours en même temps absolument magistral. Europe 1. Alors, on s'interrompt un bref instant et on va retrouver tout de suite le jeune prince de la mode qui règne sur la maison Balmain, mondialement connu, avec 5 700 000 followers. Ça, franchement, c'est pas anodin du tout. Olivier Rousteing, à tout de suite.
Europe 1. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h avec Isabelle Morizet et son invité. Aujourd'hui, un prodige de la mode à la recherche de ses parents biologiques.
Se construire un destin de jeune prince de la mode pour oublier la mélancolie du vide des origines. Voilà, la vie d'Olivier Rousteing est hors norme comme tout chez lui. Son talent, son physique, sa beauté, sa réussite. Lui qui règne sur la maison Balmain et habille Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian. Mais une énigme demeure. Elle est au cœur du film Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X, qui est en salle depuis mercredi. Alors Olivier, le fait d'avoir été abandonné a sollicité, j'imagine, en permanence votre imaginaire et vous êtes devenu depuis l'enfance, on peut dire, le scénariste de votre début de vie, 1000 fois justement imaginé, réinventé. C'est parce que vous avez été abandonné que vous avez choisi l'univers de la mode pour peut-être sublimer la réalité, pour l'embellir, la transcender, pour lui échapper, c'est ça?
Absolument, je pense que la mode me permettait de m'échapper, de créer une réalité, de créer une attitude, des personnages. Il faut savoir que quand on crée des vêtements, on crée des personnages, on crée des acteurs d'une vie, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi la mode, parce que quand on s'habille, en fait, on peut devenir quelqu'un d'autre.
On se réinvente.
On se réinvente.
Quel est le premier souvenir de votre vie, le plus ancien souvenir de votre histoire, vous l'enfant qui ne connaît pas ses origines, donc privé du début de son passé? Le souvenir vraiment le plus lointain, c'est lequel?
J'ai encore ce souvenir qui parfois, j'en rêve souvent en fait. Quand j'étais à l'orphelinat, j'étais à côté d'une enfant qui était autiste en fait. Et en fait, on était deux dans la même salle en fait. Et je me rappelle de ce souvenir en fait. Avant d'être adopté, j'ai encore ce souvenir dans ma tête d'être avec une enfant qui était autiste.
Vous avez été adopté à quel âge, Olivier?
J'ai été adopté à l'âge de 7 mois. Et donc je pense que c'est une mémoire qui est complètement d'enfant... Et je me rappelle encore des barreaux verts. Je me rappelle, j'ai une mémoire complètement. Et mes parents, quand je leur en ai parlé, m'ont dit mais c'est vrai en fait, c'est exactement ça. Donc c'est assez fou. J'ai encore cette mémoire visuelle alors que j'étais encore un bébé en fait.
De 7 mois.
Ouais.
Est-ce que c'est par la différence en fait de couleur de peau que vous avez réalisé très tôt que vous étiez adopté, ou bien vos parents, dès que vous avez eu, je ne sais pas, 4, 5 ou 6 ans, vous ont expliqué qu'ils vous avaient ramené à la maison pour vous aimer et vous élever?
Non, je pense que la couleur de peau a toujours été donc évidemment présente, et c'est pas du tout comme ça qu'ils m'ont annoncé que j'étais adoptée. C'est plus me raconter l'histoire du vilain petit canard en fait. Vous savez, le petit canard qui était pas la même couleur que toute sa famille, pourtant il faisait partie de la même famille. Et en fait, ils m'ont toujours raconté aussi le fait qu'en fait, les parents, c'est ceux qui vous aiment. Donc finalement, je m'en suis jamais rendu compte que j'étais adoptée jusqu'à l'âge de 11 ans, où en fait, je me suis fait traiter de bâtard parce que les gens m'ont montré la différence.
C'était à l'école, ça?
C'était à l'école, oui.
Mais vos parents, eux, vous envoyaient des indices, en fait, codés, c'est ça?
En fait, mes parents m'ont toujours expliqué que l'amour de parents, que les parents, c'est ceux qui donnent de l'amour. Donc je me suis jamais posé la question de me dire une différence entre biologie ou adoption. Je me suis dit, mais ce sont mes parents, c'est logique. C'est après le regard des autres qui m'ont montré cette différence et qui m'ont poussé, en fait, à comprendre que c'était pas ce qu'on appellerait aujourd'hui des vrais parents, mais en fait, ce sont mes vrais parents.
Bien sûr. Vous avez grandi à Bordeaux. Quel métier exerçaient vos parents adoptifs?
Opticienne. Ma mère était donc opticienne et mon père travaillait au port autonome de Bordeaux.
Alors, à tous les âges de la scolarité, Olivier Roustin, vous avez été un excellent élève. Vous avez obtenu votre bac avec un an d'avance. Ce tempérament de compétiteur, vous l'avez donc développé dès l'enfance. Vous l'expliquez comment? Être le meilleur, c'était vraiment pour exister et être aimé envers et contre tout?
Être le meilleur, c'est ce qui me permettait de dire à mes parents qu'ils avaient fait le bon choix et qu'ils ne me ramènent pas d'où je venais.
Vous aviez peur d'être abandonné à nouveau. Vous avez eu cette peur-là pendant l'enfance et l'adolescence?
Finalement, je pense que je l'ai encore aujourd'hui. Si j'excelle autant, c'est parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir cette reconnaissance, je pense.
Vous vous préoccupiez de mode à 14-15 ans ou pas encore?
Je me préoccupais beaucoup de mode, oui. Pour me préoccuper de...
Ou plutôt de look.
De look. Je me préoccupais de mode. J'étais très intéressé par les défilés, par les gens, par la beauté. J'étais quelqu'un qui était fasciné par le monde de la beauté. Donc, je regardais les vitrines de mode et je les contemplais, en fait, quand j'avais 13-14 ans.
Pareil, vous dessiniez beaucoup aussi.
Beaucoup.
Oui.
Toujours.
Les études de droit international, elles ont duré combien de temps?
6 mois.
Ça, c'était pour faire plaisir aux parents?
Non, c'était pour me faire plaisir. Bah, j'ai toujours aimé me battre, en fait, pour ce que je pense être juste dans la vie. Donc, ce que finalement je fais encore aujourd'hui, mais avec la mode. Et je pensais que ça serait ma vocation, et ça n'a pas été en fait le droit international.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait comprendre que finalement ça n'était pas la bonne direction? Sur quelle impulsion passe-t-on à 180 degrés du droit international à la très fameuse école de stylisme S-Mode qui se trouve à Paris?
Je pense que les textes de loi étaient très très compliqués et ma mémoire n'est pas si exceptionnelle. Donc...
et pourtant...
non, je vous assure.
On va dire ça. Alors généralement, ceux qui passent par S-Mode en sont fiers. Vous, avec une très grande franchise, Olivier Roustin, vous avouez que les professeurs d'S-Mode tentaient en fait d'amoindrir vos ambitions et vos rêves. Car ils trouvaient irréaliste en fait que vous rêviez d'un parcours de couturier star comme Lagerfeld chez Chanel, Galliano chez Dior ou Tom Ford pour Gucci. Ils voulaient vous préparer à une vie de styliste anonyme, c'est ça?
Je pense pas forcément seulement l'école, je pense que les gens autour de moi aussi me poussaient à ne pas non plus trop croire en mes rêves, pour ne pas être trop déçu. Je pense que c'est ça la réalité, c'est que parfois les gens ont tendance à dévaloriser des rêves pour qu'on en soit moins déçu si on n'y arrive pas. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, sans rêve, ne peut pas vivre. Donc, que ce soit l'école ou parfois des amis que j'avais à cet âge-là, qui me disaient « mais tu veux aller trop loin et trop haut. Et plus tu vas haut, plus la descente peut être très, très difficile. » Et pourtant, moi, j'ai dit « je veux pas de ce genre d'énergie autour de moi. Je veux des gens qui me font croire que je peux y arriver et qui me donnent envie d'y arriver. »
Mais les fondamentaux, ils vous les ont donnés dans cette école ?
Oui.
Ou bien, plus tard, vous avez tout digéré sur le terrain, sur le... on va l'expliquer d'ailleurs en Italie.
Il vous donne les fondamentaux de la mode, et ça je la remercierai toujours, mais je pense qu'après j'avais absolument besoin d'être dans l'univers professionnel pour apprendre la difficulté de la mode, apprendre vraiment dans le travail ce qu'était la mode, plutôt que de prendre des cours de la mode.
Ce qu'on n'apprend pas dans une école.
Non.
Europe 1.
Alors, vous n'êtes donc resté que 7 mois chez S-Mode, Olivier Rostara, et vous avez jeté votre dévolu du haut de vos 18 ans, hein, parce que je rappelle à nouveau que vous avez passé votre bac, vous n'aviez que 16 ans. Vous avez donc jeté votre dévolu sur l'autre planète mode, qui est l'Italie, d'abord à Rome, puis Milan et Florence. Mmh. On fait une pause et puis on retrouve notre Wonder Boy, Olivier Roustin, qui règne sur la maison Balmain. Voilà, dans quelques instants, à tout de suite avec lui.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1 avec Olivier Roustin, l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Le créateur est au cœur d'un documentaire en salle depuis mercredi, Wonder Boy, Olivier Roustin, né sous X.
Olivier Roustin est adulé par les foules jusqu'à Shanghai, Los Angeles ou Dubaï. Il est plus qu'un créateur qui habille les stars de la planète, il est l'influenceur qui sur Instagram a créé un monde parfait où la réalité serait un rêve. Près de 6 millions de followers le suivent et il est cet après-midi notre invité, Olivier Roustin. Lorsque vous avez débarqué à Rome, à l'âge de 18 ans, donc après seulement 7 mois chez S-Mode, vous aviez tout à écrire de votre histoire. Un pays inconnu, une langue inconnue, même s'il paraît que vous aviez fait du latin au lycée, mais un parfum délicieux de Dolce Vita pour le Parisien que vous étiez. Chez quelle maison de couture vous avez d'abord frappé avec votre book sous le bras, rempli de dessins ?
C'est une très belle question. J'ai frappé chez Versace au tout début. Je me rappelle, j'étais très amoureux de l'iconique Gianni Versace. Et ensuite, j'ai frappé chez Cavalli. Chez
Roberto. Ils vous ont dit Cavalli. Quoi chez Versace ? Ils vous ont pris comme stagiaire
ils ont trouvé mon travail très, très beau. Et ils m'ont dit de revenir dans 15 ou 20 jours parce qu'ils auraient peut-être un poste pour moi. Et j'étais tellement impatient que je voulais tout de suite trouver du travail.
C'était trop long d'attendre 15 jours.
Je suis quelqu'un de très impatient.
Alors après Versace, vous êtes allé voir quelle maison ?
Chez Roberto Cavalli. Et là, j'ai pu travailler
tout de suite. Les Italiens ont un sens de la mode beaucoup plus opulent que celui des Français, Olivier Roustin. Vous êtes immédiatement identifié à ça. L'Italienne, elle assume vraiment un côté vestal et glamour que renie en fait la Française.
À l'époque où j'étais parti en Italie, il y avait un côté très minimal en France, alors que j'étais dans le côté très maximaliste de l'Italie. Donc j'avais vraiment envie de postuler et j'étais amoureux de la langue italienne, donc je voulais apprendre l'italien aussi.
Oui. Et c'est donc chez Roberto Cavalli, à Florence, n'est-ce pas, que vous êtes entré comme stagiaire,
oui,
avant de gravir tous les échelons jusqu'à devenir le designer de la marque en créant toutes les collections pour femmes et pour hommes. Qu'est-ce qu'elle a imprimé en vous, cette marque italienne ? Ou plutôt, est-ce que c'est vous, Olivier Roustin, qui lui avez donné tout votre imaginaire alors que vous étiez si jeune ?
J'ai appris beaucoup de choses. C'était un empire, c'était une machine énorme. Donc j'ai appris beaucoup le sens commercial de l'Italie. J'ai appris le sens de la flamboyance, de l'excès, entre guillemets. Mais j'avais aussi besoin, à mon avis, de rentrer en France et de rentrer dans ma culture et mes traditions aussi.
Mais vous êtes resté combien de temps, en fait,
Six
à
ans.
La tête de la création ? Ah oui, donc vous étiez presque un Italien.
Ah, j'étais un Italien, je dirais même florentin.
Sono molto felice di essere qui.
Sono molto felice di stare con voi tutti. Grazie mille per questa intervista.
Bon, si en 2009, Olivier Roustin, alors que vous n'aviez que 23 ans, la maison Balmain ne vous avait pas contacté pour que vous deveniez le responsable de son studio de création, est-ce que vous seriez rentré à Paris ?
Oui.
Ah oui, pourquoi ?
J'avais besoin de rentrer dans mes traditions françaises. Vous savez, c'est important de revenir en France en ayant fait un voyage. C'est aussi très important de...
Enfin, c'était plus qu'un voyage, c'est carrément une sacrée réussite.
Oui, mais c'était un voyage assez intéressant pour moi parce que je suis parti pour mieux revenir. Et c'est aussi ça que je préconise souvent à beaucoup de gens qui me demandent d'où vient le succès, etc. Je leur dis parce que j'ai un peu voyagé dans le monde pour pouvoir plus facilement revenir en France et comprendre mieux ma culture tout en ayant compris d'autres cultures. C'est très important.
Et les jeunes stagiaires qui vous entourent dans la maison Balmain, mm-hmm. vous trouvez qu'ils ne voyagent pas suffisamment ?
Si, ils voyagent souvent parce que pour le coup, ce sont souvent des étrangers.
Ah.
Balmain est une maison qui est très dans l'inclusivité en fait, des gens. Donc on a énormément de différentes origines, de différents... pays, et c'est très très enrichissant.
Mais en tout cas, depuis que vous avez multiplié par 6 le chiffre d'affaires de la maison Balmain, et on va expliquer comment tout à l'heure, j'imagine que des 4 coins du globe, on veut venir travailler
c'est
auprès
vrai.
De vous, c'est ça ?
Ouais, et c'est très beau de voir cet engouement mondial en fait.
On se retrouve tout de suite.
Europe 1. Il est 15h29, tout juste, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite avec Isabelle Morizet et son invité cet après-midi, Olivier Rousteing.
Son destin est une success story à l'américaine, follement romanesque, doublée d'une quête de ses origines mélancoliques, on pourrait dire presque désespérées. Olivier Rousteing, le plus jeune couturier star de la planète, régnant sur la maison Balmain, a donc une double vie. Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X, est un film en salle depuis mercredi qui relève presque du documentaire, vraiment bouleversant. Ce film a été réalisé par Anissa Bonnefond et je reçois cet après-midi, le jeune prince couturier, influenceur et homme d'affaires qu'est Olivier Rousteing. Olivier, est-il vrai que lorsque vous êtes arrivé chez Balmain, à seulement 23 ans, pour seconder donc le créateur de l'époque, vous étiez plus jeune que tous les stagiaires de la maison ?
Oui, j'étais vraiment plus jeune que tous les stagiaires. Et d'ailleurs, c'est une histoire assez folle parce que ça a pris beaucoup de temps pour me faire respecter au sein du studio, que les gens comprennent que c'est pas parce que j'étais plus jeune que j'avais moins d'expérience qu'eux, en fait. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me faire accepter, à pouvoir prendre des décisions et que les gens m'écoutent.
Mais pourtant, ils savaient que c'était le président de la maison qui vous avait choisi.
Bien sûr. Mais vous savez, là, c'est une très belle question parce que la jeunesse en France aujourd'hui, c'est souvent signe de manque d'expérience et pas forcément d'un surplus de dynamisme. Ce qu'il y a par exemple aux États-Unis qu'on n'a pas en France, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en États-Unis qu'on puise de la jeunesse.
Oui.
En France, on a besoin de cette approbation de l'âge pour dire qu'on a quelque chose à dire. Et, qu'on a... et donc, je me suis retrouvé dans un système qui était assez difficile, mais où je m'en suis, je pense, bien sorti.
Alors justement, comment s'y prend-on à seulement 23 ans pour se faire entendre dans une maison de couture mondialement connue et puis commencer à injecter sa touche personnelle sans contrarier le créateur de l'époque, puisque dans un premier temps, vous le secondier.
Bien sûr.
Comment vous y êtes pris alors ?
Le respect.
Pour vous imposer.
Il faut s'imposer tout en respectant les gens, tout en ne marchant pas sur les gens. C'est aussi très important. La mode, c'est un milieu de compétition où les gens pensent que pour être plus fort, il faut marcher sur les autres. Et moi, c'est une dynamique que je n'accepte absolument pas. Je suis dans le respect des uns et des autres. J'ai secondé une personne qui était le directeur artistique de la Maison Balmain, qui était extrêmement intéressant, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup inspiré. Et après, toute une équipe derrière que j'ai dû apprendre à coacher,
à manager.
Aussi. Voilà. Et j'ai réussi et c'est des gens qui sont aussi devenus mes amis par ailleurs à la suite. Donc,
une espèce de dream team.
Voilà, une dream team qui sont encore aujourd'hui en travail avec moi après 10 ans.
Alors je refais l'histoire, vous me direz si je me trompe. Voilà que le président donc, de cette vénérable maison qui a été fondée après-guerre et qui habillait Grace Kelly d'ailleurs, Balmain, décide de vous nommer en 2011 alors que vous n'avez même pas encore 25 ans à la tête de la création. Ça, c'est un défi au travers de la mode. Il s'agit vraiment d'un business. Donc, le jour où vous apprenez cette nouvelle, je voudrais savoir quel branle-bas de combat vous organisez, quel esprit de collection vous imaginez, quelle stratégie de communication vous mettez au point pour réveiller la belle endormie. Parce que, soudain, vous devenez le général en chef des armées.
Mmh. C'est absolument ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu très peur, en tout cas. J'ai vraiment décidé de créer une espèce d'armée de gens qui vont devoir se battre pour, en fait, contrecarrer les codes, en fait. C'est-à-dire un jeune garçon noir dans une maison de luxe française à 24 ans. C'était déjà assez atypique, plus quelqu'un qui voulait pousser la diversité dans une mode qui n'existait pas encore, la diversité. Et puis c'est une maison qui date depuis 1945 et dont Monsieur Pierre Balmain avait déjà créé la diversité en habillant des femmes comme Audrey Hepburn, Josephine Baker, Brigitte Bardot, Dalida. Donc il y avait déjà quand même cet aspect de femmes totalement différentes de différents horizons. Et donc j'ai voulu insuffler ça. Donc,
mais vous avez tout fait exploser, ça a été révolutionnaire. Parce que soudain, vous êtes arrivé en dessinant des Amazones glamour, ultra sexy, dans des robes opulentes brandées de strass, archi-mini, hyper structurées, avec des épaules très années 80.
Mmh. Et, une femme forte, tout simplement.
Le power girl, c'est ça que vous avez dessiné ?
Power girl. Une femme qui n'a besoin de personne et qui défie tout et qui, en fait, accepte qui elle est. She's daring, she's confident.
Et tout le monde était d'accord. Vous avez soumis cette collection avant qu'elle ne soit fabriquée. Je pose des questions totalement néophytes, hein, mais au président, ou bien on vous a fait confiance et on a découvert en fait la collection sur le podium.
Souvent, on les découvrait sur le podium, mais je pense que ce qui les intriguait, c'était cette réaction, même en termes de business, où en fait les femmes venaient. Enfin, il y a une vraie volonté de la femme de s'habiller en balmain, ce qui est incroyable. Et je pense que les chiffres en fait ont démontré ma raison en fait.
Quel souvenir vous gardez, Olivier Rousteing, de la toute première collection en 2011, le tout premier défilé avec les rédactrices de mode du monde entier qui étaient aux aguets et qui se disaient il va nous faire quoi, le petit jeune
homme ?
Je
pense que le vrai souvenir que j'ai eu, c'est quand je suis sorti à mon premier défilé et que les lumières se sont allumées et je me suis juste dit, là, la vie change, ma vie va changer et j'ai je suis en droit, mais surtout en devoir de pouvoir m'exprimer encore plus pour pouvoir... que ma mode soit plus que de la mode, que la mode ait d'autres messages bien plus importants et parfois moins superficiels que la mode pourrait l'être.
Alors ça, on va l'évoquer tout à l'heure, mais déjà, il y a une chose qui est intrigante. De Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez et Kim Kardashian, laquelle la première vous a fait signe pour l'habiller ?
Rihanna.
C'est Rihanna qui vous a repéré
2013.
Tout de suite.
Ouais, c'était en 2013 et j'ai fait ma campagne avec elle. Ça a été une des pionnières à vouloir être un soutien incroyable.
Mais alors, on sait que les stars planétaires et leurs équipes sont très control freak hein, sur leur image, leur communication. Donc, si l'enjeu est hyper excitant, le fait de les habiller, la réalité dans la coulisse, ça peut parfois être assez complexe. Ça s'est passé comment ? Parce que ensuite, Beyoncé vous a demandé pour sa gigantesque tournée On the Road 2. Ouais. Elles se sont toutes passées le mot, en fait.
Vous savez, la mode, c'est ça. C'est il y a un début et après ça continue et ça, c'est, je dirais pas du bouche à oreille, mais c'est vous voyez, c'est une voit l'autre et elles apprécient un style et elles veulent se l'approprier aussi. C'est ça qui était extrêmement beau. J'avais aussi beaucoup travaillé avec Kanye West au début, au tout début, même avant d'être directeur artistique. Donc
finalement, le mari de Kim Kardashian.
Voilà. Donc en fait, finalement. Ça s'est fait vraiment de manière très spontanée en fait. Et avec Rihanna, ça s'est fait aussi de manière très spontanée.
Alors, que vous a-t-elle dit lorsque vous êtes rencontrés la première fois ?
Elle est venue.
Tu vas faire de moi la plus belle.
Voilà. Plus ou moins, c'était ça. Non. Et en même temps, c'était une amitié qui s'était créée. Et elle a voulu venir me voir au studio, voir les ateliers, rencontrer les gens avec qui je travaillais. Et elle a eu une affinité directe avec la maison Balmain et évidemment moi-même. Et après, on a créé une amitié. Et c'est là où on a pu vraiment échanger. C'est à partir de là aussi on a fait ma campagne 2013 avec elle.
Et Beyoncé, ça s'est déroulé d'une manière aussi
naturelle.
Fastueuse en même temps et naturelle.
Ouais, tout se fait très naturellement, c'est-à-dire que je ne supporte pas quand les choses se font calculer ou qu'il y a un marketing derrière. S'il n'y a pas d'affinité ou il n'y a pas de feeling, il n'y a pas possibilité de collaboration.
Bon, on vous sent très amis avec les Kardashians, que la presse People d'ailleurs a baptisé la famille royale d'Amérique. Vous dites que derrière en fait, la caricature du bling, cette famille promeut vraiment la diversité et change en fait beaucoup de codes, n'est-ce pas ? Pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, puisqu'ils ont des centaines de millions de followers.
Je pense que c'est une réalité. Je pense que Kim a changé la vision de la femme aussi dans le côté... je me rappelle quand j'aimais la mode, il y avait aussi un problème dans la mode, c'est qu'il y avait beaucoup d'anorexie, il y avait un corps qui était complètement erroné en fait de la femme. Et là, Kim a réinterprété les codes de la femme en assumant ses formes, en poussant les courbes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a toute une génération de filles qui s'acceptent comme elles sont. Je pense que ça a été une véritable force qu'elle a réussi à entreprendre. Et en plus, je pense qu'aussi au niveau de la diversité, une femme blanche avec un homme de couleur, avec des enfants métis, je trouve que ça a été aussi extrêmement beau parce que ça a montré une nouvelle Amérique, ça a montré un nouveau type de rêve américain. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je rêvais de mixité aussi, où je me disais noir et blanc, tout le monde est pareil, tout le monde peut se mixer. Et je me rappelle que c'était le seul qui avait ça, c'était, je crois, le tennisman Boris Becker.
Oui.
Et j'avais pas d'autres exemples. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on montre en fait que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas d'exclusion. Et c'est beau à voir. C'est beau de voir qu'une nouvelle génération va vivre en se disant que... je me regardais les séries télé quand je rentrais de l'école et quand je voyais que tout était dans des niches, en fait, les gens étaient parqués, en fait. C'était genre les noirs et les noirs, les blancs avec les blancs. Il n'y avait jamais cette mixité. Je trouvais ça très dommage. Et là, je trouve que c'est beau parce qu'on voit cette mixité qui se passe et c'est très, très beau.
Olivier Rousteing, un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en lumière là dans cette conversation, c'est votre, j'ai presque envie de dire redoutable, mais je le dis de manière sympathique, côté homme d'affaires. Parce que En 2016, la société qatari Mehoula a racheté pour 500 millions d'euros la maison Balmain que vous aviez rendue successful. Et l'actuel président dit, alors Olivier, bah, c'est pas compliqué, il s'implique dans tout. Il ne dessine pas seulement les collections, il contrôle la commercialisation, le merchandising, la pub, l'ouverture des boutiques dans le monde entier. Et près de 6 millions de followers le suivent sur Instagram pour entrer dans la bulle du monde parfait qu'il a créé. Vous rêvez de quoi aujourd'hui, Olivier Rousteing, professionnellement?
C'est une tellement belle question, c'est une très belle question. Je pense qu'on est encore tout petit, on peut encore grandir encore plus. Balmain est une maison qui a un potentiel et encore plus grand. Aujourd'hui, oui, le chiffre d'affaires a vraiment augmenté, mais il y a tellement de pays où on peut ouvrir des boutiques, il y a tellement de femmes encore qu'on peut habiller, d'hommes qu'on peut habiller. La maison peut être encore plus internationale. Donc c'est vraiment ça mon envie aujourd'hui, c'est rendre la maison plus internationale.
Et peut-être un jour, aurez-vous votre propre maison de couture? On termine sur l'éclat de rire. On retrouve tout de suite Olivier Rousteing.
Europe 1. Olivier Rousteing n'est pas seulement celui qui a remis la maison Balmain à flot, qui est suivi par près de 6 millions de personnes sur Instagram. C'est aussi un homme en quête de ses origines. Et il est l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Olivier Rousteing, on vient d'évoquer vos rêves professionnels, mais il y a d'autres rêves de l'ordre de l'intime qui, pourtant pour l'instant, semblent inaccessibles. Alors j'en reviens à cette quête d'identité qui est au cœur du film Wonder Boy, Olivier Rousteing né sous X, et qui est en salle depuis mercredi. Partir à la recherche de ses origines quand on est né sous X, ben voilà, c'est une aventure qui peut être oppressante, car au nom de la protection de la mère qui veut accoucher dans le secret, jamais, je dis bien jamais, l'administration ne donne l'identité de celle-ci à son enfant, même si les noms et adresses sont dans le dossier administratif. Donc, avant qu'on évoque votre expérience, vous considérez vraiment qu'il faut absolument que cette loi évolue?
Oui, je pense que cette loi doit vraiment évoluer pour le bien-être des enfants et pas seulement pour la femme aussi, parce que le fait de savoir qu'une femme peut faire naître un enfant sous X, c'est comme lui... C'est comme faire naître un enfant avec honte. Mmh. Et je trouve que c'est extrêmement dur, aussi bien pour l'enfant que pour la femme. Découvrir que ma mère biologique avait été si jeune et de me dire que parce qu'elle a pu me faire naître sous X, c'est un poids qu'elle peut garder en elle et ne en parler à personne. Je trouve que c'est à la fois difficile pour elle, pour moi, enfin pour tous les enfants qui sont nés sous X et qui, en fait, je trouve ça très difficile de se dire qu'on est des enfants X, en fait. Mmh.
Il y a une scène réellement poignante dans Wonder Boy, Olivier Rousteing. Vous êtes assis dans un bureau administratif, donc parfaitement impersonnel. Et sur la table se trouve une enveloppe dans laquelle est consigné ce que le Centre National pour l'Accès aux Origines Personnelles a le droit de vous révéler, pas plus, c'est-à-dire quelques informations, mais si précieuses pour vous, sur vos parents, donc concernant vos origines, mais certainement pas leur identité ni leur adresse. Jamais auparavant, l'administration n'avait accepté de caméra filmant un tel moment. Vous étiez prêt, vous vous sentiez fort, et puis soudain, vous êtes laissé submerger.
J'aurais jamais pensé que ça allait m'arriver, que j'allais être autant submergé. Je pensais être dans le contrôle total de ma vie, de mes émotions. Et ça a été un moment qui a été extrêmement dur, où j'ai lâché prise, où je pense que ça a été extrêmement étonnant pour tout. L'équipe caméra pour la réalisatrice, parce qu'on découvrait en fait au moment même qu'ils filmaient, on découvrait la vérité de ma naissance, donc c'était très très difficile. Et c'est la première fois en effet que les caméras avaient droit à accès à une scène comme ça, et j'en remercierai toujours voilà, l'Aquitaine d'avoir accepté de faire ça, d'avoir ouvert les portes aux caméras. Mais en même temps, ce que je leur ai expliqué, c'est que je leur ai dit, ça sera un message aussi pour tout une génération de gens qui cherchent en fait d'où ils viennent et de leur montrer comment on est accompagné. Dans un moment comme ça, on a une aide psychologique qui nous permet d'être proche de nous quand on ouvre un dossier et qu'on découvre des choses qui sont extrêmement dures.
D'ailleurs, la psychologue, vous avez prévenu, elle vous avait dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas une boîte de Kleenex, des mouchoirs? Oui. Attention, oui. Vous ne contrôlerez pas, vous pensez que vous êtes fort, oui. Vous allez découvrir que vous ne l'êtes pas tant que ça. Et effectivement, elle avait raison.
Elle avait entièrement raison, oui. C'était très, très, très dur.
Alors, première chose... déroutante, Olivier Rousteing. Vous apprenez, lorsqu'on ouvre ce dossier, vous apprenez que votre maman est somalienne et que votre père est éthiopien. Ce qui, en théorie, ne donne pas du tout une couleur de peau ambrée comme la vôtre. Vous pensiez être métisse, en fait, vous ne l'êtes pas.
Mmh. Ça reste un mystère, en fait. Je suis tellement fier de mes origines, mais en fait, ma mère adoptive m'avait dit que ma mère biologique était très foncée, donc en fait les dames de l'orphelinat avaient dit que certainement le père était blanc. Et en fait j'ai grandi en ayant cette image, et quand en fait on m'a dit qu'elle était donc somalienne et mon père était éthiopien, ça a été une nouveauté pour moi, quelque chose dont je suis extrêmement fier aujourd'hui, mais qui a été
très troublant. Vous avez tout imaginé en fait. Sauf ça.
Voilà. J'avais certainement pas imaginé son âge, surtout, si je dois être honnête.
Oui, parce que vous apprenez que votre maman n'avait que 14 ans quand elle vous a conçu, avec un homme 10 ans plus âgé qu'elle, et qu'elle, en fait, semblait ne pas bien le connaître, d'après ce que disaient les papiers. Et vous découvrez son écriture ronde d'enfant. Mmh. Et ça aussi, ça vous submerge.
Oui, ça me submerge, en fait, parce que j'ai ouvert un dossier en pensant que j'allais rencontrer une mère, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de voir une enfant. Et ça a complètement changé mon approche, en fait, de cette ouverture de dossier. Je pensais trouver des éléments qui allaient me protéger, et finalement, je trouve des éléments qui me donnent envie de la protéger, de la prendre dans mes bras, de dire que c'est juste un cauchemar. Et finalement, je me rends compte aussi que je fais partie de ce cauchemar qu'elle a dû vivre, et je suis son enfant biologique, la chair de sa chair. Donc, ça a été un moment dur, un moment où beaucoup d'émotions me subjuguent, c'est-à-dire j'ai envie de pleurer, j'ai envie de taper l'homme qui en fait est mon père biologique, parce que je me dis comment tu as pu faire ça à cette fille, j'ai beaucoup d'émotions à ce moment-là qui sont incontrôlables et qui font de ce moment-là un moment qui restera toujours avant moi, je pense.
Vous pensiez découvrir une mère, vous découvrez une enfant, et vous découvrez la détresse d'une enfant qui dit dans ce dossier qu'il n'y aura pas de contact avec celui qui va grandir, à qui elle a donné naissance, parce qu'elle voudrait pouvoir faire des études. Vous ne savez pas en fait si on l'a forcée à renoncer à son bébé. Vous dites que peut-être elle a été manipulée, peut-être qu'on l'a poussée à l'abandon.
C'est beaucoup de questions, vous savez, c'est beaucoup de questions. C'est-à-dire, est-ce qu'elle, véritablement, elle n'avait pas envie de cet enfant? En même temps, 14 ans, je peux imaginer, c'est une enfant elle-même. Donc c'est beaucoup de questions qui me sont en tête. Est-ce qu'elle a été manipulée? Il faut savoir qu'elle vivait à Djibouti et qu'elle est partie vivre après en France. Donc c'est beaucoup de questions, en fait, où on se dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'était une relation consentante, non consentante? Est-ce que c'était, disons-le clairement, un viol? Est-ce que c'était un départ de son pays pour pouvoir accoucher de manière cachée? Beaucoup de questions me voilà.
Et l'administration vous dit que votre maman vit toujours en France, dans le sud-ouest. Mais elle ne veut pas vous dire où. Elle ne veut pas vous donner son
exactement. Nom. Et ça, c'est la plus grande frustration. Mais en même temps, c'est je le respecte énormément. C'est ce qui s'appelle le respect de la vie privée, en fait. Mais pourtant, j'ai envie de lui dire... Mais, vous imaginez, vous connaissez plus de choses que moi je ne connais d'elle, alors que je suis la chair de sa chair, en fait.
En fait, Olivier Rousteing, naître d'une histoire d'amour, même si elle se termine mal, mais naître d'une histoire d'amour, c'était la consolation que vous cherchiez dans cette enveloppe, c'est ça? Vous espériez ça?
J'espérais ça, je pense. Ouais, j'espérais... vous imaginez bien, si on vous dit être né d'un viol, ça change complètement votre perspective de vie que d'être né d'amour, en fait, je pense. Vous m'avez posé une première question qui était de votre recherche vous apporte à connaître mieux qui vous êtes aujourd'hui, en effet, parce que malgré tout, en tant qu'humain, de haïr son père biologique, c'est quelque chose d'assez dur, je trouve. Et je sais pas, je n'ai aucune idée encore aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de lui dire à elle merci, et j'espère que le poids de la souffrance que j'ai pu être pendant les 9 mois dans son ventre, elle a pu l'oublier au moins, je crois, en fait.
On retrouve tout de suite Olivier Rousteing.
Europe 1. Il est 15h51. La conversation entre Isabelle Morizet et son invité est sur le point de se terminer. Derniers instants donc en compagnie du créateur Olivier Rousteing.
Il est beau comme un jeune pharaon. A réussi une trajectoire hors norme dans le milieu de la mode avec la maison Balmain. Est mondialement connu et adulé. Mais une énigme demeure quant au début de l'histoire. Olivier Rousteing, à la fin de ce film très bouleversant, Wonder Boy, Olivier Rousteing est sous X, qui est en salle depuis mercredi, vous écrivez à votre maman inconnue une lettre dont vous dites à haute voix, j'ai noté rapidement ces quelques phrases dans cette lettre, qui a une charge émotionnelle absolument énorme, vous dites « cher, cher dont je ne sais pas le nom ». D'ailleurs, dois-je te tutoyer ou vous voyez? En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait naître et de m'avoir fait rencontrer une famille qui m'aime. Mais je suis devenue un adulte plein de pleurs inexplicables, plein de peurs inexplicables. Et vous pouvez m'aider. Est-ce que l'administration a remis cette lettre à votre maman biologique ou pas encore ?
Pas encore, non. La lettre, elle est encore chez moi parce qu'à la fin du tournage, quand j'ai vu le film fini, en fait, je me suis dit que ce sera ma lettre. La lettre que je vais lui envoyer, ce sera ce film, en fait. Et lui expliquer que, en fait, finalement, ce film, on comprend qui je suis. Vous savez, une lettre, c'est très difficile avec des mots sans images de pouvoir expliquer qui vous êtes. Et j'avais envie de finalement lui dédier ce film aussi, de lui dire en fait, je vais bien, je suis à la recherche, je suis à ta recherche, mais regarde qui je suis devenu. Et donc, en fait, finalement, cette lettre écrite, elle reste chez moi. Et en revanche, le film, il sort et j'ai l'espoir qu'elle le voit.
Bien sûr, le film, il sort. Et puis, vous donnez des interviews à la télé, à la radio. Donc, on peut penser qu'une personne qui verra ce film, si par hasard votre maman spontanément ne le voyait pas, une personne qui va voir le film ou qui vous entend, par exemple, à la radio en ce moment et qui connaît votre maman, va lui en parler. Parce que le 3 avril 1986, dans le sud-ouest de la France, il n'y a pas plusieurs adolescentes somaliennes de 15 ans qui ont accouché sous X. Elle est peut-être déjà au courant, votre maman. Comment vous réagirez si jamais elle ne se manifeste ?
Je pense que la vraie question, c'est de demander déjà si je la tutoierai ou si je la vouvoierai, en fait. Vous savez, c'est très étrange, mais est-ce que vous avez une proximité avec quelqu'un qui vous a fait naître ou c'est quelqu'un qui est complètement inconnu, avec qui vous devez garder une distance ? C'est beaucoup de questions, en fait. Est-ce que le fait d'être votre mère biologique vous permet d'avoir une proximité, de la prendre dans vos bras, de l'embrasser ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que la biologie vous permet d'avoir une proximité ou pas ? Ou est-ce que c'est vous garder une distance comme si c'était deux êtres inconnus alors que vous savez que vous êtes la chair de sa chair ? Donc, c'est beaucoup de questions qui se posent. Ok, j'ai aucune réponse, si ce n'est que la seule chose que je veux faire, c'est la remercier pour l'être que je suis devenu, parce que ça soit un choix volontaire ou, comme vous disiez, peut-être une manipulation, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est que le choix, quel qu'il soit, a été de me faire adopter par une famille incroyable.
Qui vous a aimé.
Qui m'a aimé. Et c'est en quoi je pourrais la remercier aujourd'hui.
Mais vous êtes tous sauf anonymes. Vous êtes une star mondialement connue dans l'univers de la mode. Vous régnez sur la maison de couture Balmain. Vous habillez les stars planétaires. On a dit tout à l'heure Beyoncé, Rihanna. Est-ce que vous avez songé que peut-être votre maman, à ce moment-là, prévenue, avertie, pourrait accepter de vous voir par une espèce de curiosité, pas exactement pour les raisons que vous espérez ?
Bien sûr, je pense qu'après, il y a... Vous savez, l'humain en soi n'a pas de limite. Je ne sais pas. J'espère que si elle accepte de me rencontrer, c'est pas par pure curiosité, mais c'est juste pour me dire, pour m'expliquer le pourquoi de mon abandon. Et finalement, vous savez, tous les matins, tous les jours où elle se douche, où elle se réveille, elle a une cicatrice qui lui rappelle qu'à 14 ans, elle a eu un enfant.
Oui, puisqu'elle a accouché par césarienne.
Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Je pense que cette cicatrice, elle l'a toute sa vie. Et je pense que c'est une plaie qui n'est pas fermée pour n'importe quelle femme qui accouche d'un enfant et qui l'abandonne. Quelle que soit la femme, je pense que c'est une blessure qui est toujours ouverte. Donc, la seule façon qu'elle puisse fermer cette blessure et la seule façon que moi je puisse oublier ou ne plus parler d'abandon, parce que finalement, en la rencontrant et en ayant les réponses, c'est comme avoir des réponses sur un abandon, c'est presque ne plus avoir cet abandon. Donc, je pense que ça sera aussi autant bénéfique pour elle que pour moi. Et c'est ça que je lui souhaite, c'est d'avoir cette force de me rencontrer si elle le souhaite. Et je l'espère qu'un jour, elle dira oui.
Parce que vous dites, quand on ouvre la porte de la vérité, on prend conscience qu'elle donne sur un infini. Finalement, aucune réponse, jamais, ne peut totalement vous satisfaire, ne pourra totalement le faire.
Vous savez, quand je suis allé découvrir le dossier, je m'attendais à tout autre chose que ce que j'ai découvert. Donc, quand on me demande est-ce que tu te sens plus libre d'avoir ces réponses, je réponds non, parce que les réponses que j'ai eues ouvrent d'autres encore questions. Un père inconnu, pas d'amour entre eux, une situation où elle doit partir de son pays. Donc, oui, en effet, c'est des réponses. Mais est-ce que ces réponses me satisfont ? Non, ces réponses ne me satisfont pas. Et ça, c'est extrêmement dur. Mais comme vous dites, la porte de la vérité ouvre un infini d'autres vérités. Et pour fermer cette porte-là, il faut que je la rencontre et que je lui parle, en fait.
Ça arrivera. Une question juste, on quitte la sphère de l'intime pour la sphère professionnelle. J'aimerais bien savoir quels sont vos projets immédiats, Olivier Rousteing. Parce que je sais que vous débordez de projets sans cesse.
Oui,
vous avez un vrai agenda de ministre. C'est absolument hallucinant d'avoir réussi à vous attraper au vol comme ça, une heure de temps pour une interview.
Non, mais je suis extrêmement heureux d'être avec vous et je vous remercie de ce temps-là parce que c'est très important aussi, voilà, de parler de ce genre de sujets qui sont extrêmement, je pense, un sujet sociétal qui touche beaucoup de gens. Si après on part de cette sphère intime et on va dans un côté plus professionnel, aujourd'hui je travaille sur pas mal de projets. Je pars à Los Angeles la semaine prochaine pour lancer une collaboration Balmain avec une marque de sport très importante. J'habille donc Björk pour son prochain concert à Paris qui arrive d'ici peu. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. J'ai un mois de décembre assez chargé, mais et puis préparation de mes défilés, homme en janvier, mars la femme. Donc voilà, pas mal de choses se passent. On ne s'ennuie pas. Voilà.
Wonder Boy, Olivier Rousteing des Sous-X. Ce film incroyablement puissant, bouleversant, est en salle depuis mercredi. Je vous remercie pour la générosité, la sincérité avec laquelle vous avez répondu à toutes ces questions. Et voilà, que la route continue d'être flamboyante et longue. À très bientôt, Olivier.
Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et on va retrouver Isabelle Morizet, bien sûr, sur Europe1.fr grâce au podcast. Et le week-end prochain, dès 15h sur Europe 1, avec deux nouveaux invités. Il y aura l'humoriste Jarry, actuellement sur la scène de l'Européen à Paris, avant une tournée des Zéniths en France. Et puis l'autre invité, ce sera le réalisateur et producteur Luc Besson, qui a d'ailleurs signé sa première autobiographie, Enfant terrible, parue chez XO, sortie il y a un petit peu moins de 2 mois. Dans un instant, on se détend avec Mathieu Noël pour son Équipée sauvage. Bon après-midi à tous. Europe 1.